Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. Aujourd'hui, épisode spécial pour approfondir certains points déjà abordés et répondre aux remarques et questions des auditeurs. La fourmi dans la coquille, saison 1, épisode spécial. Au sommaire, impact environnemental de l'IA, les chiffres objectifs. L'humain n'a pas à rougir, il est aussi une machine. Intelligence artificielle et biais culturels, c'est insoluble. Alors que la puissance de la plupart des grandes intelligences artificielles statistiques, et en particulier dites génératives, ne fait que progresser de manière brute et brutale, c'est-à-dire par l'augmentation de la taille des données d'entraînement, aussi bien que par l'augmentation de la puissance de calcul, il est légitime de se demander si ces méthodes n'auraient pas un impact écologique significatif, notamment en consommation énergétique, mais aussi en ressources naturelles, et si cet impact est effectivement différent de celui du monde numérique précédant le boom de l'IA du début des années 2020. En effet, lors d'une conversation récente avec un des auditeurs de ce podcast, celui-ci me soutenait que finalement l'IA, en termes d'impact environnemental, n'était peut-être pas si grave, étant donné que le monde numérique avait déjà un impact et que ce ne serait pas l'IA qui allait changer grand-chose à ça. Il sous-entendait que les recherches Google, par exemple, étaient déjà grandes consommatrices d'énergie et émettrices de CO2, ainsi que consommatrices d'eau. Je vous propose de regarder ensemble les chiffres réels de cette consommation liée au centre de données et à l'intelligence artificielle et de se faire une idée sur l'impact réel qu'elle a sur l'environnement. Malheureusement, les données fiables sur le sujet sont particulièrement difficiles à trouver. Les entreprises qui développent des IA statistiques ne laissent filtrer que peu, voire pas du tout d'informations. Les chiffres qu'on trouve en ligne, elles sont généralement des estimations aux doigts mouillés, voire biaisées. J'ai donc passé en revue tout ce qu'on pouvait trouver sur le sujet. J'ai écumé les moindres recoins d'Internet à la recherche d'informations un peu fiables sur le sujet. Et je propose ici une méthode de calcul et un ordre de grandeur des valeurs de consommation diverses de ces intelligences artificielles. Toutes les informations que je vais vous partager ici sont bien sourcées et recoupées entre elles, et j'ai fait attention à comparer les valeurs attendues et les ordres de grandeur en fonction des différents modes de calcul pour m'assurer de la cohérence des sources et des études retenues pour le résumé que je vous fais ici. J'ai dû écarter plusieurs sources et estimations absolument fantaisistes, notamment souvent celles concernant les consommations à la requête ou au prompt, pour lesquelles les ordres de grandeur n'ont en réalité aucune cohérence avec les consommations énergétiques des serveurs et le poids des services numériques en général, et qui ne recoupent pas non plus les estimations globales qu'on peut trouver via l'Agence internationale de l'énergie, IEA, International Energy Agency, que vous retrouverez sur iea.org et qui sont apparemment très fiables. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vous la fais brève et je vous fais un résumé de ce que j'ai pu ainsi trouver concernant les consommations de l'intelligence artificielle. Commençons par leur consommation électrique. On peut trouver assez facilement la consommation d'un processeur dédié à l'intelligence artificielle. En effet, le principal fabricant, Nvidia, donne l'information dans les brochures techniques des serveurs qu'il fabrique. On découvre ainsi qu'un processeur a une puissance de 350 à 750 watts en moyenne, et que cette puissance peut monter à un maximum de 1000 watts, c'est-à-dire 1 kilowatt. À titre de comparaison, cet ordre de grandeur est comparable à la puissance moyenne de ma propre maison, c'est-à-dire une petite maison de 80 mètres carrés environ située dans les Alpes, et ça, c'est pour un processeur unique. Il se trouve que les grandes entreprises dont l'intelligence artificielle, telles que Meta, OpenAI, Alphabet, Google ou Microsoft, sont assez fières de construire des centres gigantesques et nous disent combien de processeurs sont inclus dans ces centres de données, où l'on découvre donc qu'un grand centre de calcul et de données dédié à l'IA peut contenir plus d'un million de processeurs. Le calcul est facile à faire, ça nous fait des centres de données qui consomment entre 500 MW et 2 GW. Autrement dit, plus d'un million de maisons comme la mienne, ou pour le dire autrement, la production totale d'un ou deux réacteurs nucléaires. Ces chiffres paraissent gigantesques, puisque des centres de données de cette taille, il y en a plusieurs dans le monde, voire même de très nombreux. Et ça nous amène aux chiffres de consommation globale des centres de données. Ces valeurs-là, on les trouve grâce à l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit qu'en 2022, la consommation totale des centres de données sur la planète a été de 460 TWh, c'est-à-dire juste avant le boom de l'IA, et cette même agence prévoit en 2026 une consommation, tenez-vous bien, de 1000 TWh, c'est-à-dire l'équivalent de 2,5 fois la consommation de toute la France, ou aussi la consommation du Japon, qui sont tous deux classés dans le top 10 des pays les plus énergivores, bien qu'ils soient de tout petits pays. Cette augmentation de la consommation des centres de données est bel et bien tirée par l'usage de l'intelligence artificielle, et il faudrait ajouter à cette consommation celle liée à la fabrication des processeurs, qui s'élève aussi au minimum à plusieurs dizaines de terawattheures supplémentaires, voire des centaines chaque année. On est donc sur des valeurs qui sont pas du tout anecdotiques, j'y reviens un petit peu après, mais avant ça, penchons-nous aussi sur un autre type de consommation liée à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les consommations d'eau. Là aussi, les chiffres sont très difficiles à obtenir, surtout qui dépendent des systèmes de refroidissement utilisés notamment. Mais en creusant le sujet, on peut découvrir que la consommation annuelle mondiale pour le refroidissement et uniquement le refroidissement des serveurs d'intelligence artificielle est prévue en 2027 entre 4,2 et 6,6 gigamètres cubes. Histoire de vous dire ce que ça représente, c'est la consommation annuelle d'eau potable pour l'alimentation en France. Il faudrait d'ailleurs ajouter à cette consommation celle de la fabrication des serveurs, puisque la fabrication des puces informatiques est aussi une grande consommatrice d'eau. On parle de centaines de millions de mètres cubes par an. Là encore, le chiffre exact est impossible à obtenir malheureusement. Et à ces chiffres, certains ont des arguments pour tenter de relativiser l'impact environnemental des intelligences artificielles, et je vais revenir un petit peu sur ces différents arguments que vous pouvez entendre à droite à gauche. Le premier, le plus courant, étant « oui, mais l'IA va aider à réduire les impacts environnementaux ». En effet, selon les géants et les moins géants de la tech, l'usage de l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer les processus de fabrication, de production, de transport, de potentiellement toutes les industries et services, et grâce à cette montée en efficacité, peut ainsi réduire leurs impacts environnementaux. C'est un argument quand même très très fortement teinté de techno-solutionnisme, mais on va se pencher un instant là-dessus. Tout d'abord, c'est un argument assez facile à poser là comme ça, mais sans étude d'impact valable, ça reste un vœu pieux. On ne peut que constater que aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, en début 2025, l'intelligence artificielle ne fait que exploser les consommations énergétiques du numérique, et en aucun cas, elle ne permet encore la moindre économie. Il y a un chiffre qui revient souvent, qui est celui que l'IA pourrait permettre une réduction des émissions globales de CO2 de 5 à 10% si elle était appliquée à toutes les émissions. Traduit en tonnes de CO2, ça ferait une réduction de 2,6 à 5,3 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Alors je me suis renseigné pour trouver d'où venaient ces chiffres. Ils sont en fait tirés d'un article publié par le Boston Consulting Group, qui est un cabinet de conseil dont le marché est constitué principalement de clients qui justement développent et utilisent des intelligences artificielles. Ce Boston Consulting Group promeut d'ailleurs le fait de, je cite, « déployer l'IA générative dans les outils de tous les jours ». En bref, on peut légitimement douter de l'objectivité de ce cabinet, qui a compilé ces chiffres à partir des usages non représentatifs de ses propres clients. Et quand bien même, j'ai envie de dire, si l'IA était appliquée à toutes les émissions, comme ils essaient de nous le faire croire ici, la vraie question serait aussi de savoir si ces 2 ou 3 gigatonnes économisées compenseraient les nouvelles émissions liées à l'intelligence artificielle, et ça, c'est très très loin d'être évident. J'ai un peu creusé le sujet, et il semble qu'une requête traditionnelle sur le moteur de recherche Google, sans intelligence artificielle donc, soit émettrice de 0,2 g de CO2. Si on compte 10 millions de requêtes par jour, qui est une estimation du nombre de requêtes quotidiennes sur ChatGPT, et qu'on transpose cette valeur, on obtient des émissions de 2 mégatonnes quotidiennes, soit 0,73 gigatonnes annuelles, rien que pour ChatGPT en particulier, ce qui représente déjà un tiers de ce qui est censé être économisé. On peut noter que même si cette valeur de 0,2 g de CO2 par requête pour Google est probablement surestimée, l'ordre de grandeur des émissions du numérique et de l'intelligence artificielle est bien un équivalent à ce qu'elle est censée faire économiser. Donc tout au mieux, le coût serait neutre, voire plutôt négatif. Et puis, surtout, en calculant comme ça, on oublie d'ajouter à ces émissions calculées sur une base actuelle, on oublie les augmentations induites par ce qu'on appelle l'effet rebond, ou le paradoxe de Jevons, qui est connu depuis le 19e siècle déjà, mais que les entreprises de la tech font mine d'ignorer. Ce paradoxe énonce que, à mesure que les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. Il est tout à fait vrai quand la ressource est de l'énergie, comme pour l'intelligence artificielle. En fait, ce que ce paradoxe nous dit, et ce qui est l'effet rebond, c'est que quand on augmente l'efficacité de ce qu'on fait, au lieu d'en profiter pour économiser ou avoir un usage un peu plus sobre, l'usage au contraire augmente et se répand au point que finalement on consomme plus à l'arrivée qu'avant l'amélioration de l'efficacité. C'est en particulier dû à la réduction des coûts associés à l'augmentation d'efficacité. C'est donc un phénomène connu depuis la fin du 19e siècle. Évidemment, ce paradoxe est tout à fait applicable directement à l'intelligence artificielle ainsi qu'aux industries qui profitent de l'intelligence artificielle pour améliorer leur efficacité énergétique. Et ça nous conduit donc directement à une forte augmentation des consommations globales et donc, entre autres impacts environnementaux, à l'amplification du réchauffement climatique. Concluons donc en remarquant que les économies potentielles liées à l'usage de l'intelligence artificielle ne compenseront jamais les augmentations de consommation qu'elle provoquera, bien au contraire. Un autre argument pour relativiser l'impact environnemental de l'IA est de nous dire qu'elle ne fait que remplacer des usages numériques préexistants, comme la recherche sur Internet ou la fabrication des images. Cet argument est très facile à réfuter. L'usage de l'intelligence artificielle consomme au bas mot 10 fois plus que les usages numériques préexistants. Et encore une fois, c'est sans compter l'effet rebond dont je viens de parler et les nouveaux usages qui l'accompagnent. Autrement dit, oui, elle remplace des usages préexistants en consommant beaucoup plus. Mais au fond, nous dira-t-on, si ce n'est que de l'électricité verte, c'est pas bien grave. Sauf que, d'abord, il est faux de réduire les consommations de l'intelligence artificielle à simplement de l'électricité quand, par exemple, le refroidissement et la fabrication des serveurs sont de très grands consommateurs d'eau et de matières premières, de métaux, notamment de cuivre et autres métaux en tout genre. Cela étant dit, d'ailleurs, la production d'électricité qui alimente l'IA est elle-même très très loin d'être verte et n'est pas près de l'être du tout. Si effectivement la France produit la majorité de son électricité grâce à la fission nucléaire, déjà, il serait assez erroné de considérer ça comme une énergie complètement décarbonée, mais c'est aussi une exception mondiale. La grande majorité de la production de l'électricité à l'échelle mondiale provient des énergies fossiles, et d'ailleurs, des entreprises pétrolières comme Shell constatent déjà une augmentation de la demande en gaz naturel liquéfié, en partie liée à l'intelligence artificielle. Si plusieurs grands acteurs de l'IA investissent dans le nucléaire dans une vaine tentative de se décarboner, il faut pas se leurrer, la majorité des consommations provient bel et bien des énergies fossiles. Le saviez-vous? Tous les centres de données fonctionnent d'ailleurs grâce à des générateurs de secours qui tournent au fioul. Eh bien oui, parce que dans la volonté de maintenir ces centres de données disponibles 24 heures sur 24, 100% de disponibilité, il faut parer à toute défaillance du réseau électrique et pouvoir fonctionner en autonomie, ce qui se fait donc grâce à des grandes cuves de fioul qui est brûlée dans des générateurs électriques locaux. Mais malgré tout, vous entendrez encore un dernier argument pour relativiser l'impact environnemental de ces intelligences artificielles. On vous dira « oui, mais ». Ces consommations sont de toute façon plutôt faibles si on les compare aux autres secteurs d'activité. Là aussi, il suffit d'aller piocher dans les chiffres et les statistiques pour se rendre compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans les grandes économies, comme la Chine, l'Union Européenne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, les consommations des centres de données représentent déjà 2 à 4% de la demande globale en électricité, et dans le reste du monde, c'est 1%. Et ça, c'était en 2022, avant le boom de l'IA. Ces proportions sont d'ailleurs sur une pente qui est franchement montante à cause de l'IA, et 2 à 4%, c'est quand même pas rien. Ces chiffres un peu généraux cachent en plus des problématiques locales, alors que les centres de données sont généralement regroupés dans des régions bien précises. Il en résulte par exemple que dans 5 États des États-Unis, la consommation des centres de données a déjà dépassé 10% de la consommation totale d'électricité en 2024, et en Irlande, on est même à 20% de la consommation totale d'électricité qui est dédiée aux centres de données. Et là, on met le doigt sur un problème assez grave, c'est qu'avec le développement de ces centres de données mal répartis, on peut s'attendre à des tensions considérables sur les réseaux d'énergie locaux, et la réponse à cette demande a tendance à se faire via des énergies fossiles, qui ne peuvent que faire manquer les objectifs de transition énergétique régionaux. Faisons une parenthèse sur la consommation en eau de tous ces centres de données. Si je reprends l'exemple des émeutes et des révoltes qu'ont provoqué la construction de méga-bassines dans les Deux-Sèvres en France, ces réactions prouvent bien qu'il y a aujourd'hui en France des tensions pour l'accès à la ressource en eau. Ces tensions et ces conflits ont porté, dans cet exemple précis, sur le partage de la ressource entre la population pour la consommation, l'agriculture industrielle et aussi l'agriculture paysanne, et les conflits autour des mégabassines ont cristallisé ces tensions. Imaginez maintenant que dans la même région, une entreprise comme Microsoft ou Google implante un centre de données qui va venir s'ajouter au pompage des ressources en eau. Que pensez-vous qu'il puisse se passer? Est-ce que tout ça n'est pas symptomatique d'un problème grave qui se profile à l'horizon? En guise de conclusion sur cet impact environnemental de l'IA, vous pouvez retenir que oui, l'IA provoque un net accroissement des consommations énergétiques du secteur numérique et des consommations énergétiques globales et à l'échelle mondiale, et que cette consommation n'est pas négligeable du tout. On parle de consommation équivalente à celle du Japon, qui est un pays grand consommateur d'énergie. Donc non, l'impact environnemental de l'IA n'est pas neutre du tout, il est même relativement catastrophique, et il est tout à fait légitime de se demander si l'usage qu'on en fait mérite vraiment cet impact sur l'environnement, alors qu'on est en plein réchauffement climatique, et qu'il semble bien que l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré en moyenne est déjà inatteignable. Il est important aussi de bien noter que, contrairement à ce que nous disent Microsoft, Google et OpenAI, non, l'intelligence artificielle ne sera pas une solution pour réduire les consommations d'énergie. Elle ne peut réellement et objectivement que nous amener à une augmentation globale des consommations, à une période où il est absolument primordial de mettre un frein à ce développement, voire de le stopper complètement. Il n'est plus possible en 2025 et dans les années qui viennent de continuer à augmenter nos consommations énergétiques de cette manière. C'est indiscutable, ce n'est pas un avis, c'est un fait objectif et scientifique. Dans le cinquième épisode du podcast intitulé « Le geste créateur », je mentionnais le fait que les artistes usant d'outils numériques, dont je fais partie d'ailleurs, accordent assez fréquemment une attention particulière à donner à leurs œuvres un aspect traditionnel et analogique. Ces artistes essaient de réintroduire les imperfections et les accidents des techniques traditionnelles et de rendre la chaleur que l'aspect digital et numérique fait perdre. Agnès Mapoul, qui va nous servir ici d'avatar pour préserver l'anonymat des auditeurs qui m'ont fait leur retour, Agnès donc m'a fait remarquer que les humains sont aussi des machines et sont capables à ce titre d'une grande perfection. A contrario de ce que je disais, et en particulier quand les humains utilisent des techniques analogiques et traditionnelles, manuelles, ils essaient aussi souvent justement d'effacer toute imperfection, tout accident. Ils essaient de garder un contrôle total et d'atteindre une absolue perfection dans leur œuvre. Et ils en sont tout à fait capables. Ils atteignent une précision qu'on ne pourrait croire possible que par des machines. Agnès prend l'exemple d'un orchestre symphonique. Tout comme des machines, plusieurs dizaines de musiciens sont capables de suivre une partition et de se synchroniser parfaitement, coordonnant des milliers d'actions en temps réel avec une précision extrême. Selon ma petite poule, l'humain n'a pas à se sentir dévalorisé par la machine ou l'intelligence artificielle en étant capable de faire au moins aussi bien. Elle a tout à fait raison, et j'ajouterais même que l'humain dépasse la machine. Il est capable non seulement d'avoir sa précision, mais il y ajoute aussi ce que justement aucune machine ni intelligence artificielle n'est capable de comprendre, c'est-à-dire l'interprétation. La raison pour laquelle les mélomanes se déplacent pour assister à des concerts symphoniques plutôt que de seulement écouter la musique sur leur système haute fidélité, c'est qu'il n'y a pas deux concerts identiques, alors que la partition ne change pas. L'ambiance, l'émotion, l'humeur du moment, autant que celle des musiciens et celle du chef d'orchestre et que celle du public, toutes ces émotions font que le ressenti sera toujours différent. Il peut suffire d'un chef d'orchestre fatigué ou exalté, au contraire, pour assister à deux représentations absolument différentes. Et revenons donc à nos artistes numériques qui cherchent à restaurer les imperfections de l'analogique, alors que d'autres artistes traditionnels, eux, cherchent la perfection que le numérique pourrait leur apporter. N'y a-t-il pas là un paradoxe ? Il y a en tout cas un point commun dans les deux cas, c'est la volonté de pousser le détail, la recherche d'une perfection de l'œuvre en dépassant les limitations de l'outil qu'on utilise, quel qu'il soit. Je pense qu'il y a aussi un goût commun pour l'effort et le labeur artistique. C'est d'ailleurs, à mon avis, cet effort, ce souci du détail qui fait l'impression de l'œuvre sur les spectateurs. C'est ce que j'appelle la générosité de l'œuvre et de l'auteur. C'est une notion importante que j'essaie de transmettre à mes étudiants et qui est très très liée au simple temps passé à mûrir et améliorer l'œuvre, quelle qu'elle soit. C'est précisément pour moi de ce processus que l'IA peut nous priver, en tout cas quand elle est utilisée dans le simple but de gagner du temps. Ce temps, il est nécessaire et indispensable, et l'usage de l'IA pour le réduire, ce n'est pas généreux. Une fois que la sidération face à l'apparente magie de l'IA est passée, le spectateur finira bien par s'en rendre compte et se lassera de ses œuvres un peu trop faciles, entre guillemets. Face à une œuvre particulièrement bien exécutée, techniquement parlant, la première question qu'on risque maintenant de se poser va être « Est-ce que c'est de l'IA ou un artisanat exceptionnel ?» Et si la réponse est que c'est de l'IA, alors le spectateur va passer son chemin sans y porter plus d'attention. Avec la disparition de la performance et de la prouesse, je pense que l'intérêt finit par disparaître. Attention, je vais quand même ajouter que bien évidemment, ce n'est pas la prouesse technique qui fait la qualité d'une œuvre, mais c'est bien cette idée de générosité que je développe ici, et qui est sous-tendue par l'importance du temps passé. Que ce temps passé soit passé à la réalisation pratique de l'œuvre, ou bien simplement à sa maturation artistique. Or, et on en revient à cet épisode précédent qui étudiait le geste créateur, le temps de fabrication est aussi un temps de maturation artistique dont l'usage d'outils comme l'intelligence artificielle peut facilement nous priver et dont il est donc très important de compenser la perte. Le temps de l'art est à la fois indispensable et incompressible. On ne peut pas gagner du temps pour faire de l'art généreux. Troisième partie de cet épisode spécial, je tenais à revenir sur les biais culturels de l'IA, notamment parce qu'un auditeur m'a envoyé une vidéo de la chaîne YouTube qui s'appelle Linguisticae, de Romain Filstroff, un linguiste qui fait la vulgarisation sur YouTube, donc, et qui a mené une expérience avec l'IA. Je vais revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Comme je l'ai mentionné dans le troisième épisode de ce podcast « Rationalisme, empirisme et boîte noire », les intelligences artificielles statistiques étant entraînées avec des données sélectionnées et classées, leurs résultats sont nécessairement le fruit de choix subjectifs et arbitraires. Et ça, c'est valable que ces choix soient déjà présents dans les données d'apprentissage ou bien qu'ils soient introduits au moment de leur classement. Les IA statistiques, et en particulier les IA génératives, sont particulièrement sujettes à toutes sortes de biais, y compris un des plus sournois de tous, donc le biais culturel, et elles font preuve d'ethnocentrisme. Les humains, en tant qu'êtres sociaux, sont fortement influencés par leur environnement culturel dans leur compréhension du monde. Chaque culture développe son propre ensemble de normes, de valeurs, de croyances, qui façonnent la vision du monde des membres de cette culture. Et comme de nombreux autres biais cognitifs, le biais culturel dont on parle ici donc est un mécanisme de défense naturelle qui aide les individus à appréhender le monde complexe en simplifiant et en catégorisant les informations pour permettre une décision plus rapide. Mais c'est un biais et il a ce défaut qu'il peut limiter la compréhension et en particulier l'appréciation de la diversité et ainsi conduire à des jugements erronés et des préjugés. Les biais culturels représentent aussi un obstacle notable à l'entente interculturelle entre des peuples. On ne peut bien évidemment pas appliquer telle quelle la définition des biais cognitifs qui sont par définition humains aux intelligences artificielles, qui elles sont dépourvues de toute cognition ou, dans le meilleur des cas, dotées d'une cognition très très limitée. En tout cas, c'est tout à fait légitime quand même de parler de biais, et en particulier de biais culturels dans le cas des IA génératives. En n'étant capables que de reproduire ce que contiennent leurs données d'apprentissage, auxquelles elles attribuent un poids statistique, elles ne génèrent naturellement des données que en phase avec les équilibres statistiques de ces données d'apprentissage. Et par l'alignement qu'on opère sur ces IA, c'est-à-dire les corrections qu'on apporte au classement des données d'apprentissage ou bien aux ajustements de leurs réponses lors de la phase d'inférence, la phase d'usage, il peut être possible de réajuster ces probabilités, mais toute modification apportée ne fera que modifier les biais de manière arbitraire selon de nouveaux choix subjectifs et aussi d'ailleurs soumis à divers biais cognitifs. Autrement dit, même si on pratique l'alignement des IA, on ne résout pas les biais introduits par les données d'apprentissage, on ne fait qu'en choisir d'autres. Il faut ajouter que l'analyse et la maîtrise des biais de ces intelligences artificielles génératives est tout à fait primordiale parce que ces IA participent elles-mêmes aux biais cognitifs et culturels de leurs utilisateurs. En tant que source de connaissances et de données pour les utilisateurs, elles font partie de leur propre culture et elles les influencent naturellement. L'individu n'est pas isolé dans ses décisions. Ses biais cognitifs sont en partie liés à la pression sociale et culturelle sur les individus, et ce travers peut d'ailleurs donner lieu à des techniques de persuasion ou de propagande très efficaces. Et tous les aspects culturels sont impactés par ce biais culturel, allant par exemple des notions de politesse à des idées politiques et économiques sur ou sous-représentées, ou encore par exemple la reproduction des stéréotypes de genre, d'ethnie ou d'origine géographique. Ces biais ne sont pas le fait des IA elles-mêmes, mais les IA en sont la caisse de résonance. On va prendre un exemple pour être un peu plus complet avec les grandes intelligences artificielles génératives qui génèrent du texte ou des images et des vidéos. Elles sont généralement entraînées avec les données issues d'Internet qui sont notoirement biaisées. L'immense majorité d'Internet présente des contenus de culture anglo-saxonne ou proches de cette culture, et on retrouve ce déséquilibre dans ce que les IA génèrent. Et même au-delà des données d'apprentissage, si on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle et de l'informatique, comme nous l'avons fait dans le premier épisode de ce podcast d'ailleurs, ça nous montre bien que dès la conception, la plupart des systèmes informatiques sont développés dans un cadre culturel anglo-saxon et en particulier états-unien. Tous les langages de programmation, par exemple, sont dérivés de l'anglais, et la logique utilisée est elle-même quasi exclusivement le fruit de la philosophie européenne ou états-unienne. Pourquoi n'y a-t-il pas le moindre langage de programmation basé sur une autre langue que l'anglais? Dans une étude en mars 2024, des chercheurs ont montré la présence d'un racisme larvé dans les grands modèles de langage utilisés par les robots conversationnels comme ChatGPT. En partant de recherches précédentes qui montrent que les États-Unis entretiennent des stéréotypes raciaux basés sur l'usage d'une variante afro-américaine de l'anglais, les chercheurs ont constaté que les modèles de langage reproduisent les mêmes préjugés et affichent les mêmes stéréotypes larvés, encore plus négatifs que les stéréotypes des humains sur les afro-américains, et ça alors même que les stéréotypes plus ouverts et non pas larvés de ces modèles de langage sont beaucoup plus positifs. J'explique un peu plus en détail. Cette étude montre que les méthodes d'alignement existantes pour atténuer les préjugés raciaux de ces modèles de langage n'atténuent pas réellement ces préjugés et au contraire provoquent un racisme larvé. En effet, ces méthodes d'alignement exacerbent en fait l'écart entre les stéréotypes larvés sous-entendus et les stéréotypes ouverts, en poussant les modèles de langage à dissimuler superficiellement le racisme qu'ils entretiennent à un niveau beaucoup plus profond. Ce n'est pas du tout anodin, parce que les chercheurs ont montré que ces préjugés avaient des conséquences tout à fait néfastes. En demandant à ces intelligences artificielles de prendre des décisions hypothétiques sur les personnes, en se basant uniquement sur la façon dont elles parlent, ils ont montré que les IA sont beaucoup plus susceptibles de proposer aux locuteurs de l'anglais afro-américain des emplois moins prestigieux, ou de les reconnaître coupables de crimes, et même de les condamner à mort. Il y a donc, malgré tous les efforts pour effacer les préjugés des IA, un réel racisme larvé, caché, sous-entendu dans leurs réponses, tout simplement parce que ce sont des biais qui sont impossibles à effacer des valeurs statistiques des données d'apprentissage. Plus généralement, il est intéressant de relever qu'une autre étude a montré que les IA auraient leur propre vision du monde qui ne serait reliée à aucun groupe social humain spécifique, tout en n'étant pas moins un important biais culturel. L'effet de ce biais culturel, il est particulièrement visible dans le domaine du langage, où il est assez facile de révéler les biais linguistiques des robots conversationnels. Je reviens donc à ce Romain Filstroff qui anime la chaîne YouTube Linguisticae, dédiée à la vulgarisation sur la linguistique. Il fait une expérience où il essaye de créer une langue à l'aide d'IA générative, et il se trouve que ces IA se montrent absolument incapables de l'aider à créer la langue. Parce que, au-delà des problèmes liés à l'absence de créativité de l'intelligence artificielle, absolument incapable de se détacher de la statistique et donc incapable de la moindre innovation, et aussi au-delà de son incapacité à appliquer les règles qu'on lui donne, qui sont primordiales pour établir le fonctionnement d'une langue, Romain Filstroff s'est rendu compte que les biais culturels et linguistiques de l'IA limitent fortement ses capacités. L'IA est par exemple quasiment incapable de créer une langue en utilisant des diacritiques, c'est-à-dire des accents ou la CDI par exemple pour le CCDI en français, ou des caractères hors de l'alphabet latin. En fait, le poids statistique des caractères latins et sans accent est bien trop élevé relativement à la fréquence des caractères accentués ou des alphabets autres dans les données d'apprentissage de l'IA. Ça, c'est une caractéristique de l'anglais qui est largement prédominant dans ces données d'apprentissage. Romain Filstroff note aussi que l'IA est très dépendante de la langue dans laquelle on s'exprime à elle et se centre naturellement sur la langue de l'utilisateur, tout en conservant toujours un certain anglocentrisme. On note aussi que les tentatives d'alignement de l'IA, c'est-à-dire le fait pour les développeurs de l'IA d'en contrôler les futures réponses, introduisent elles-mêmes d'autres biais, par exemple ce qu'on peut appeler un biais de positivité, où l'IA génère beaucoup plus facilement des mots liés à des notions associées à des émotions positives, comme la paix ou la tranquillité, au détriment des émotions négatives. Ce biais de positivité est d'ailleurs un autre frein à la créativité de l'IA générative, et il rend impossible la génération d'un lexique complet, incluant aussi les notions qu'on va dire négatives, lors de la création d'une nouvelle langue. Ces biais culturels peuvent bien sûr être étendus à tout type d'IA générative au-delà des modèles de langue, puisqu'elles sont toutes conçues sur les mêmes principes, et il faut s'attendre à retrouver toutes sortes de stéréotypes dans les générations issues de ces intelligences artificielles, qu'il y ait ou non une tentative d'alignement de la part des concepteurs. Je vous invite à visiter lafourmi.media pour retrouver le lien vers la vidéo passionnante de la chaîne YouTube Linguisticae. Vous pouvez retrouver les sources, les études et les chiffres ayant servi à l'écriture de ce podcast sur lafourmi.media. Je pense en particulier à tout ce qui concerne l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, où j'ai détaillé la méthode de calcul qui m'a amené aux valeurs que j'ai exposées dans l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui a été enregistré en réponse à vos remarques, à vos questions d'auditeurs, et je vous en suis particulièrement reconnaissant. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos réflexions via le formulaire de contact sur lafourmi.media ou bien directement par email à contact@lafourmi.media. Nous approchons doucement de la fin de la saison 1 de La fourmi dans la coquille et vous commencez probablement à comprendre pourquoi je qualifie l'intelligence artificielle de trou noir philosophique. Nous en parlerons dans le prochain épisode dans lequel je vous proposerai un certain nombre aussi de solutions et de mesures qu'on pourrait appliquer chacun ou collectivement face à ce grave problème. Il se trouve que ce podcast est justement actuellement coincé derrière une série d'algorithmes de recommandation, de moteurs de recherche et de robots conversationnels qui filtrent l'accès à la connaissance et en particulier ignorent les idées nouvelles et les pensées un peu moins consensuelles comme celles que nous développons ici. En écoutant ce podcast, vous faites partie des quelques-uns qui ont réussi à s'affranchir de ces filtres et je vous invite à le partager au maximum, aussi bien via vos réseaux réels que numériques, pour aider à naître un peu plus et que le nombre d'auditeurs continue d'augmenter lentement mais sûrement. N'hésitez pas aussi à laisser des pouces levés, des étoiles, des cœurs, des likes sur votre plateforme d'écoute habituelle. Je pense que ça peut aider à faire en sorte que les algorithmes l'acceptent un petit peu mieux. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie, par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast, et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.